propos d'usine, c'est des paroles de comédiens, de danseurs, metteurs en scène, chanteurs et autres tisseurs de récits. Des histoires pour prolonger l'histoire d'un spectacle, un temps suspendu entre deux battements de temps, pour partager des passions. Propos d'usine, c'est des enregistrements réalisés dans le cadre du théâtre de l'usine à Saint-Céré. Et pour retrouver Propos d'usine, écoutez les rencontres impromptues et mots partagés, une série d'émissions culturelles proposées par Michel Brissot, diffusée le samedi à midi par Antenne Doc.
Cet enregistrement n'a pu être réalisé que par téléphone. La qualité du son peut parfois présenter quelques altérations. Lucie Herlès, un grand bonjour, un grand merci de m'avoir accordé du temps pour que nous puissions parler ensemble de vos choix de créatrice, de circassienne, de femme de théâtre, de conférencière, d'intellectuelle. Donc il y a une panoplie très importante de possibilités dans ce que vous êtes et ce que vous faites qui mérite d'être un tout petit peu décryptée. Alors vous avez choisi le cirque comme base de votre activité. Est-ce que le cirque est quelque chose qui est apparu rapidement parce que, je ne sais pas, vous aviez des parents qui étaient des gens du cirque, parce que vous aviez, dès l'enfance, vous étiez très habile, très souple, et qui n'arrête pas de s'agripper, de sauter, de grimper, voilà. Donc est-ce que c'était votre cas ?
Oui, je pense que j'étais une petite fille effectivement un peu hyperactive. Après, il y a des hasards de la vie aussi. Effectivement, j'ai des parents qui travaillent plus ou moins dans le secteur culturel, mais pas du tout dans le cirque. Et il y a des hasards qui font que quand on est une petite enfant hyperactive, parfois nos parents cherchent les activités les plus proches de la maison et que là, il se trouve que il y avait une petite école de cirque à quelques centaines de mètres de chez moi. Et en fait, ils m'ont inscrit là quand
ils se sont dit, c'est parfait pour elle, ça.
Oui, c'est ça. Les mercredis après-midi, on va l'occuper. Elle va essayer plein de trucs. Elle ne va pas arrêter de se dépenser. Et comme ça, elle dormira bien le soir. Et en fait, je n'ai jamais arrêté. Et ça, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas.
Dans la présentation que vous faites de vous à travers votre site internet, Vous parlez d'enfance ballottée, le terme, entre Bruxelles et Avignon. C'est-à-dire que vos parents étaient des gens qui se déplaçaient beaucoup ou...
En fait, mes parents sont belges, mais ont ouvert un théâtre à Avignon avec une équipe, avec d'autres personnes, mais ils faisaient partie de l'équipe des gens qui géraient ce théâtre et qui avaient une programmation uniquement belge. Et donc, j'ai été élevée à la fois en France et à la fois dans un paysage culturel ultra belge. Et donc, ça a vraiment formé, je pense, une identité artistique un peu hybride.
Ce que vous avez développé par la suite jusqu'à aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Et je parle d'identité artistique hybride aussi parce que, notamment, mon rapport au théâtre est bien plus... nourri par la Belgique que par la France grâce à cet environnement-là. Et c'est vrai qu'on ne fait pas théâtre de la même manière en Belgique francophone, en Belgique flamande et en France.
Les différences portent sur quoi pour éclairer un petit peu votre propos ?
Je pense qu'elle se pose notamment du point de vue du texte, du respect qu'on va avoir envers le texte. Je pense que le respect, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a un détachement vis-à-vis du patrimoine textuel en Belgique qui donne énormément de liberté de ton, de liberté d'adresse, ce qui est parfois plus difficile, j'ai l'impression, en France. En tout cas, de ce que j'observe, il y a des choses qui sont peut-être plus sacralisées en France, qui permettent aussi d'explorer des manières d'être au plateau un peu plus parfois conservatrices, je pense, mais qui impliquent aussi une certaine créativité et un certain regard sur des textes plus classiques, notamment, alors qu'en Belgique, on n'a pas du tout cette pression-là, j'ai l'impression. Et notamment dans mon adresse au public, je pense qu'il y a un détachement et il y a une adresse dans le solo qui est presque celle du spectacle de rue, où j'appelle ce spectacle spectacle conférence, mais je crée un lien avec le public qui est presque celui d'une adresse très directe qu'on retrouve plus souvent dans les spectacles de rue. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pu observer plus souvent en Belgique qu'en France.
Oui. Je pense qu'il y a, malgré tout, en France, je le vois à travers ce qui est programmé au Théâtre de l'Usine, et beaucoup de comédiens, comédiennes ou de compagnies nouvelles ou récentes qui proposent, même des fois à partir de textes traditionnels de la littérature ou du théâtre français, une approche qui va en dérapage et qui n'est plus l'application stricte des règles habituelles du théâtre. Maintenant,
oui,
c'est vrai que vous, à travers Solo, il y a peut-être ce rapprochement avec le théâtre de rue où la différence, la frontalité entre l'espace scénique et l'espace public disparaît au profit d'une mixité qui va faire que les gens sont pratiquement imbriqués dans le spectacle.
Tout à fait. Je pense que le mot-clé de ce spectacle, c'est porosité. Vraiment, on est dans un spectacle où je parle du public, je parle de la relation que le public a avec l'interprète qui est sur scène, je parle de ma propre relation au public, et en fait j'intègre le public constamment. Il y a un jeu avec elle et eux de création de réaction, de création d'émotions qui sont ensuite décortiquées dans le texte, parce que du coup le côté conférentiel, il est aussi dans l'aspect didactique du propos où je suis vraiment dans une démarche d'explicitation de OK, comment ça fonctionne un spectacle, comment on crée des émotions en tant que créatrice de cirque, pourquoi le public aime en fait aller voir du cirque, aime revivre ses émotions. Et comment voilà, on crée de l'empathie entre le public et la personne qui est au plateau. Et donc forcément, je suis dans un lien avec le public d'ultra réactivité. Le public réagit à ce qui m'arrive et moi je réagis à ce qui lui arrive. Et donc ça crée vraiment un lien hyper direct et adressé.
La part réactive du public est faite de quoi? D'une émotion commune exprimée dans un O, quelque chose, un A ou j'ai peur, que vous ressentez, que vous retraduisez par un contact que vous établissez avec le public qui est dans la salle. Parce que il reste pas moins vrai que, au théâtre de l'Usine à Saint-Céré, la scène n'est pas une scène décrochée en hauteur, elle est vraiment à niveau, mais et il y a quand même une limite où, d'un côté, les sièges avec les gens, de l'autre, la scène avec les comédiens, comédiennes ou circassiens, circassiennes. Et à un moment donné, vous êtes amené à devenir conférencière, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous activer en tant que circassienne et vous vous adressez au public directement?
Oui, tout le temps. Il y a quelques moments vraiment corps, on va dire, uniquement corps dans le spectacle, qui sont des moments d'illustration d'un propos, mais en fait je suis en contact tout le temps avec le public, dans le sens où c'est une pratique de texte où il y a mon texte de base, mais par contre tout ce qui se passe dans la salle et que je ressens, je vais y réagir et notamment j'accueille le public en haut, donc je suis en haut d'une guinde de rappel, donc je suis dans le grill, quoi, je suis dans les plafonds du théâtre, et j'accueille le public de là et je, voilà, j'essaye d'établir un contact, une première relation. Je considère que le public est invité chez moi un peu d'une certaine manière pendant une heure et donc je me dois de les inviter avec le plus de soin et de chaleur possible.
Il y a déjà une démarche inhabituelle qui est troublante pour le public puisqu'une première adresse se fait depuis les cintres du théâtre, ce qui est généralement peu pratiqué par les comédiens qui sont sur une scène.
Tout à fait. Après, c'est sûr que ça reste un spectacle. Voilà, le public est dans le gradin, je suis sur scène, je suis en création sur mon deuxième spectacle où, par exemple, je pète complètement ça et le public peut être sur scène à tout moment et il y a une partie du public qui sera sur scène et qui peut bouger du gradin à la scène. Donc, disons que je suis dans une démarche d'accentuation de cette porosité-là. Et voilà, le solo, c'est mon premier spectacle et l'aspect aussi sécuritaire fait que le public reste dans le gradin et je suis sur scène. Mais en tout cas, à travers la parole et à travers les différentes réactions, c'est sûr qu'il y a un lien qui s'établit qui est plus fort que si je déroulais mon texte de manière plus conventionnelle.
Il y a donc, malgré tout, une part de cette porosité, elle joue aussi dans ce que vous êtes à travers Solo, c'est-à-dire ce rapprochement entre le texte, les mots, qui sont généralement les bases d'expression du théâtre, et puis le corps, qui, chez les circassiennes ou circassiens, est le moteur de l'écriture et des émotions qui vont naître de ces expressions-là. Donc, le théâtre, vous vous en rapprochez finalement avec un texte qui n'est pas forcément un texte théâtral fait pour tel, mais qui, malgré tout, est en écho parfait avec ce qui se pratique généralement dans un théâtre.
Oui, tout à fait. Et je pense même que le corps est au service du texte dans ce spectacle. Ce n'est pas toujours le cas dans mon travail, mais ici, effectivement, j'ai été chercher cette porosité, j'ai été chercher la strate du corps. Le cirque aussi a cette puissance-là d'évocation, mais aussi c'est un art qui est populaire, qui est accessible à tous et à toutes. Et c'était important pour moi de mêler un propos un peu théorique sur okay, comment ça fonctionne les émotions, comment ça fonctionne un spectacle. C'est un propos qui est un peu didactique, mais qui est, je pense, ultra nécessaire d'être communiqué. Et du coup, pour moi, le cirque est un outil au service de ce propos-là. Et j'ai essayé vraiment de garder toute sa puissance aussi de virtuosité technique, de son pouvoir de fascination. Et voilà, le côté impressionnant du cirque, il est au service du propos. Et donc, constamment, il y a un jeu entre les deux. De décortiquer cette virtuosité technique, décortiquer ces réactions un peu d'émerveillement que peuvent provoquer le cirque, mis en lien avec ma pratique qui est directement visible sur le plateau et qui est exemplifiée, quoi.
Ce partage des genres qui va faire qu'à un moment donné, vous avez une traduction de vos précisions, de vos exigences par rapport au corps qui vont aller chercher pourquoi moi qui suis spectateur je suis fasciné par les prises de risque parce que on vit aussi un petit peu dans ça avec le cirque souvent, c'est-à-dire des prises de risque importantes, des précisions inhabituelles dans nos déplacements ordinaires et qui font que je suis subjugué par le fait que ça semble extrêmement facile, mais c'est impossible à faire.
Ouais, effectivement, je parle beaucoup de ça. Je parle aussi de comment je parle beaucoup de la peur, en fait, dans le spectacle.
De la
et
peur.
Et de comment... Ouais, des émotions de peur, comment elles sont créées, à quoi servent-elles, et surtout comment on peut dépasser cette peur pour effectuer des choses qu'on pensait impossibles, ou en tout cas qu'on n'imaginait même pas.
Quand vous parlez de la peur, c'est la vôtre ?
Je parle de la mienne et je parle de comment la mienne peut être transposée au public.
Oui, ressentie avec force, oui.
Mmh. Donc il y a constamment aussi un double fil de dramaturgie qui est celui de la peur de faire du cirque, de la peur liée au risque physique vraiment, et celui de la peur de faire des choses qui sortent de la norme. Et ça, voilà, c'est vraiment lié aussi à mon parcours qui me permet justement, je donne quelques éléments de compréhension de mon parcours de circassienne au public. Et ces petits éléments-là, ils me permettent juste de créer un lien de compréhension mutuelle et d'empathie avec le public qui lui permet aussi de comprendre pourquoi j'ai besoin d'affronter ces peurs-là et aussi... Qu'est-ce qui fait que je me retrouve ici aujourd'hui à créer un spectacle hybride entre texte, entre corps, et un spectacle qui est un espèce d'ovni finalement.
Mais jusqu'où est-il finalement hybride ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous retrouvez une place pratiquement entière dans l'espace théâtral, le cirque étant la matière des mots avec lesquels vous exprimez des situations particulières, inhabituelles, et vous évoquez à travers, je dirais, toute la gestuelle du cirque. Il y a toujours cette question de la mort au bout d'un moment donné, puisque les prises de risque sont telles que si le mouvement n'est pas parfait, le risque, lui, peut entraîner une destruction du truc. Puis en même temps, vous écrivez un texte comme n'importe quel auteur de théâtre. Et donc cet amalgame, c'est peut-être une forme nouvelle, pas hybride, mais une forme nouvelle d'écriture théâtrale.
J'aimerais en tout cas que ça le soit. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à créer un nouveau langage, mais en tout cas, je m'y suis essayée et j'ai vraiment travaillé sous forme de strates, en fait, la strate du corps, la strate du texte, la strate du lien au public, la strate de la lumière, du son, et pour permettre cette multistratification, j'ai travaillé vraiment avec plusieurs regards extérieurs et une équipe très multidisciplinaire pour permettre un propos en fait d'être abordé par différents points de vue et qu'il y ait le plus d'entrée possible dans le spectacle pour les personnes qui auraient peut-être plus d'atomes crochus avec le côté circassien ou plus d'atomes crochus avec le côté textuel ou plus d'atomes crochus avec vraiment le côté théorique, didactique, d'apprentissage de nouvelles connaissances. Et donc cette multistratification, je l'ai essayée la plus cohérente, la plus fluide possible pour effectivement essayer de créer une forme qui soit... qui se tienne à elle toute seule et qui ne soit pas dissociée, désarticulée.
Oui, c'est ça, en fait. Oui. C'est le fait qu'il y ait une grande... au bout du compte, les différentes manières que vous avez de manifester votre art de comédienne circassienne, c'est aussi d'amalgamer des approches différentes, comme ça se fait aussi dans le théâtre autrement, des formes différentes qui, normalement, ne sont pas prises, comme vous en parliez, des strates qui vous ont permis la construction, mais d'un tout dans lequel, moi, spectateur ou spectatrice, je vais avoir eu une somme d'émotions, d'informations, de réactions qui me disent pas « Ah, j'ai vu une jeune femme faire des choses extraordinaires ». Non, j'ai vu un spectacle qui m'a bouleversé. C'est peut-être ça, au fond du compte.
Et probablement que vous aurez intercepté dans le spectacle des éléments qui feront écho à des intérêts personnels ou à des expériences personnelles et que vous en parlerez à la fin du spectacle avec d'autres gens qui n'auront pas mis leur regard spécifiquement sur ces éléments-là, mais sur d'autres. Et donc, c'est intéressant de parler de ce spectacle-là à plusieurs, j'ai l'impression, parce que les retours sont très différents. Il y a vraiment des gens qui s'accrochent à mon histoire, des gens qui s'accrochent à la performance physique, des gens qui s'accrochent vraiment à l'aspect théorique, qui me reposent des questions de clarification à la fin, des personnes qui vraiment me parlent de la lumière. J'ai l'impression que voilà, ces différentes entrées, elles touchent en fait différemment les spectateurs et spectatrices.
Ben, on est tous les uns et les autres avec une capacité de captation qui est marquée par notre propre histoire, par nos sensibilités, par nos savoirs, et qui vont faire que, indépendamment d'un choix délibéré, les choses vont nous toucher à travers, effectivement, comme vous le dites, le mouvement, à travers la parole, à travers la scénographie, à travers tous ces éléments-là qui vont être des priorités. Le reste existe, mais il y a des priorités qui sont là. Ça ne veut pas dire que le spectacle ne vaut que par la scénographie ou par le texte, non. Ça veut dire que Madame X, Monsieur Y vont chacun avoir une perception, mais c'est, je pense, peut-être une situation du monde en général quand on a des relations avec les gens.
Tout à fait. Ah. Mais oui, comme je parle quand même... voilà, c'est une conférence sur le cerveau, en fait. C'est sur le fonctionnement de notre cerveau. Je parle notamment de comment on crée des nouveaux réseaux neuronaux, mais donc comment... notre perception du monde est uniquement liée à nos expériences passées et la manière, notre rapport à tous ces stimuli-là et notre rapport notamment au fait d'aller dans une salle de spectacle, c'est ce qui forme aussi notre regard sur ce qu'on est en train de voir.
Mais c'est peut-être aussi la complexité architecturale d'un spectacle ou d'une proposition qui est garante de la possibilité pour le plus grand nombre d'entrer en résonance avec ce qui est proposé. Plus les choses sont simples, plus elles deviennent monolithiques et plus on va sectoriser de façon étroite l'accès d'un nombre limité de personnes au spectacle ou à autre chose. C'est peut-être la complexité qui est importante et que vous mettez finalement, que vous agrégez des éléments qui au départ n'étaient pas totalement prévus pour être ensemble.
Tout à fait. C'est vraiment ce travail-là
Alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous diversifié par rapport à ce qui a été vos démarches initiales par rapport au cirque? Et donc le cirque, on y apprend d'abord à maîtriser son corps dans des mouvements qui vont chercher des formes les plus absolues possibles. Mais l'intellectualisation de ça, les recherches que vous avez pu mener, les études que vous avez pu faire, qu'est-ce qui vous a amené à cela? Pourquoi? Vous n'êtes pas limité juste au théâtre, au cirque?
J'en parle un petit peu dans le solo, mais donc c'est ce que je disais un petit peu de ce parcours qui crée voilà, une... Enfin, voilà, dont je parle dans le spectacle pour un petit peu expliciter mon propos, mais donc de circassienne, donc d'études de cirque. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en fait, le solo, ma pratique circassienne, c'est le tissu aérien. Donc, il y a un rapport à la prise de risque qui est lié à la hauteur et voilà, donc c'est une déconstruction de l'air de cet élément-là. Mais donc, d'une pratique vraiment spécifique circassienne à l'école de cirque de Québec, au Canada, je me suis blessée, en fait. Histoire assez classique, hein, finalement, de circassienne. Et donc, j'ai dû arrêter le cirque après 5 ans d'école, 3 ans d'école préparatoire en France et 2 ans d'école supérieure au Québec. J'ai dû un peu remettre toute ma vie en question et me retourner. Et donc, j'ai commencé des études de sciences psychologiques à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Et donc, c'est des études multidisciplinaires entre la psychologie clinique, la psychologie sociale et les neurosciences, la neuropsychologie. Et donc, voilà, j'ai fait ma licence de sciences psychologiques à Bruxelles. Et c'est, je pense, ce passage-là qui m'a déjà amené à être dans un processus un processus intellectuel proche de la recherche scientifique. Et donc, de comment on analyse une question, comment on tire les fils de cette question, comment on déploie des ressources théoriques pour y répondre. Et surtout, j'ai commencé à analyser ma propre pratique de circassienne sous ce prisme-là. Je pense que ça a été vraiment le moment de bascule où j'ai vraiment commencé à essayer de comprendre pourquoi en fait il y a autant de gens qui vont voir des spectacles du Cirque du Soleil alors que le billet coûte 60 euros et qu'on a tellement de mal à remplir des salles où le billet est à 10 euros avec des spectacles qui sont pourtant créés en plusieurs années avec des gens qui mettent vraiment toute leur passion, toute leur vie dedans. Mais pourquoi des spectacles vraiment plutôt de divertissement au Québec attirent beaucoup plus? Ça, c'était une des questions qui m'a vraiment fortement stimulée au début. Et donc, cette nuance entre art et divertissement, et en fait, qu'est-ce que vont chercher les gens quand ils vont voir des spectacles comme ça, et comment on crée, comment on répond à ces attentes-là, en fait, dans les spectacles de divertissement québécois, ça a été vraiment ma première base d'analyse, on va dire. C'était des questions qui tournaient en moi. Et en même temps que j'étais en train d'étudier les neurosciences et le fonctionnement des émotions et l'importance du partage social des émotions et l'importance de se retrouver en groupe, à quoi servait le théâtre finalement aussi, socialement. Donc c'est vraiment un méli-mélo de toutes ces questions-là. Je pense qu'il y a un moment, a fait sens et a été le départ d'une recherche et de... Ouais, d'une aventure artistique et théorique.
Mais effectivement, ce qui va concerner votre propre pratique et vos propres créations est aussi une question qui vaut pour le théâtre en général ou les arts en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que on va tenter de se frotter à quelque chose d'inhabituel, alors que le divertissement est une façon de se faire caresser dans le sens du poil le plus...
Tout à fait.
Hein, et donc, on est bien, on n'a pas d'effort à faire, on n'a pas de doute, on n'a rien, on est là pour rire ou pour voir, écouter... Mais c'est tout. Donc, reste, c'est vrai que la question que vous posez par rapport à la dimension circassienne de votre activité, c'est une dimension qu'on peut reporter à tous les domaines de l'expression artistique.
Tout à fait, même de l'expression tout court.
Oui.
Comment les médias aussi jouent de ces éléments-là, par exemple, de création d'émotions. Quelle est la limite entre un média... qui flirte avec le divertissement et un média qui au contraire, n'essaye pas de répondre à des attentes, mais plutôt d'ouvrir des nouvelles portes. Du libre arbitre et de l'empouvoirment du public qui est au centre aussi de ce projet. Moi, je sais qu'il y a des clés de compréhension de mon propre fonctionnement physiologique, mon cerveau, mes émotions, quand on est bloqué face à une situation, comment on arrive à trouver des nouvelles voies qu'on n'imaginait même pas. En fait, tout ça, c'est des fonctionnements qui sont c'est des fonctionnements humains, et au plus on les comprend, au plus on a des clés aussi pour aller dévier des situations, ou en tout cas ne plus aller chercher toujours les mêmes schémas, notamment de divertissement. Quand on se rend compte des ficelles, c'est agréable de les comprendre, et en même temps, du coup, on a envie d'aller en explorer d'autres.
Oui. Et pour vous, est-ce que la part textuelle, celle qui va traduire en mots un certain nombre d'éléments qui sont non pas des formes explicatives, mais des contrepoints à ce qui se passe réellement et physiquement sur scène. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui pourrait se développer par rapport à cette expérience de solo pour devenir un mix encore plus, peut-être presque plus théâtral, où votre part de comédienne prendrait une place au moins aussi importante que celle de circassienne?
C'est déjà le cas. Hein.
C'est déjà le cas.
C'est vraiment... Oui, c'est déjà le cas. Et le cirque a des places un peu différentes dans le spectacle, mais il est omniprésent, mais au même titre que le texte. On est quasiment sur un... Je suis quasiment tout le temps en train de bouger et de parler. Et la dimension aérienne permet ça aussi. En fait, je suis déjà en l'air quand le spectacle commence, quand j'accueille le public dans la salle. Et je suis déjà en train de parler. Et il y a assez peu de moments où j'arrête de parler. Et il y a assez peu de moments où j'arrête de bouger. Le cirque a parfois des vertus illustratives d'un propos, mais assez peu souvent, où il se tient par lui-même. Mais il y a plein de moments où il est vraiment collé au texte. Il y a notamment une scène où j'explique comment on crée des nouveaux réseaux neuronaux, comment ça fonctionne un neurone dans le cerveau. Et donc cette scène-là, je suis sur mon tissu, en fait, et je deviens un neurone, et grâce à la lumière, on a une petite, on a un petit moment sans que je surligne ce que je suis en train de dire, en fait. Il y a un petit moment où vraiment l'environnement dans lequel je suis, toute la salle devient une espèce de cerveau. Et nous devenons tous et toutes des petits neurones, mais c'est vraiment ni surligné ni dit, mais c'est une image en tout cas qui apparaît et qui disparaît pour passer à autre chose, et on a comme ça des petits moments de vraiment de où ça se tient et où ça se touche, ce que je dis et ce que je fais. Et puis voilà, il y a aussi des moments qui sont uniquement circassiens, ou des moments qui sont uniquement conférences, mais il y en a très peu finalement.
Oui. Écoutez, je suis vraiment ravi d'avoir eu cet échange avec vous. Je serais vraiment ravi de le traduire en termes de vécu en allant vous voir le 24 janvier, le vendredi à 20h30 au Théâtre de l'Usine à Saint-Céré. Je sais que par ailleurs, vous donnez aussi une représentation la veille pour des scolaires.
À 14 ans. Ouais.
Et puis, voilà, une démarche de création vraiment intéressante, étonnante, riche, qui rassure sur l'état du monde et des fois de ses grandes pauvretés. Merci à vous, et puis à très bientôt après les fêtes de fin d'année.
Merci beaucoup pour votre temps.
Merci, au revoir.
Let's be happy. Let's be happy, ho, 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 ha, ho, ho, ho.